Vivre FM,
podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Recherche et partage, une émission présentée par la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, en partenariat avec Vivre FM et l'OCIRP. C'est dans un instant sur Vivre FM et nous allons parler aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de poésie, de musique, de mémoire, de progrès, d'espoir, de réussite, tout un programme dans lequel nous vous proposons de découvrir une recherche effectuée en partenariat avec l'INSERM, une équipe de l'INSERM et une équipe d'un EHPAD de Basse-Normandie. Et tout cela a porté sur la mémorisation de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. C'est un peu confus pour l'instant, mais vous en saurez plus dans un instant. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Recherche et Partage. À nos côtés aujourd'hui, Hervé Platel, chercheur, professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen. Et Odile Le Tortue, gériatre, médecin coordonnateur en EHPAD. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va aujourd'hui parler d'un projet de recherche et puis on le verra beaucoup plus largement de tout ce qui s'est passé autour de ce projet de recherche. C'est un projet de recherche, je le précise, qui n'est pas soutenu par la FIRA, comme le sont la plupart des projets de recherche dont on parle dans cette émission. Et il n'en est pas moins pour autant particulièrement intéressant. Et c'est pour ça que nous souhaitions en parler avec nos invités, Odile et Hervé, en plateau. Alors on va peut-être partir de l'EHPAD. L'EHPAD, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et le cœur de cette recherche et tout ce dont on va vous parler pendant une heure d'émission est parti de cet EHPAD. C'est peut-être Odile qui veut commencer par nous en dire un mot, je crois.
Voilà, c'est parti de cet EHPAD, l'Hébervanche à Biville-Beuville. Et c'est vrai que c'est aussi parti d'un climat général en France où on commençait vraiment à s'intéresser à ces personnes, Alzheimer. Il y avait de la bibliographie, il y avait des livres, il y avait des articles, même dans les années 80. Mais il fallait aussi être résistant à des visions assez négatives, comme le fait qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait pas de guérison, que c'était des malades très sévèrement atteints, qui n'avaient plus de capacité. Il fallait aussi lutter contre les représentations. Et là, ce qui a été magnifique à cette époque-là, c'est qu'il y avait aussi des gens qui disaient « Mais partons de ce que vivent tous les jours ces personnes, de ce qu'ils sont capables de dire, et ne supposons pas des choses qui ne sont pas réelles. Soyons réels, soyons près des gens. » Et en fait, ce que moi, je me suis rendu compte quand on m'a proposé de créer une unité... Enfin, je cherchais en 93 à créer une unité Alzheimer. J'ai rencontré des partenaires. Et en fait, on a pu... quitter les idées toutes faites sur cette maladie-là.
C'est-à-dire qu'on avait à la fois...
Il y avait en même temps un terrain riche, parce qu'il y avait beaucoup d'articles, même sur les thérapies non médicamenteuses en 80. Il y avait aussi surtout, alors là j'ai eu la chance d'être à Caen, puisqu'il y avait aussi le développement de la neuropsychologie qui nous donnait des outils intellectuels pour comprendre la maladie. Mais en même temps, dans les années fin 80, les définitions hétéroïdes, c'était déficit global et irréversible des fonctions intellectuelles, c'était atrophie cortico-sous-corticale sévère. On avait l'impression qu'on allait accueillir des personnes qui n'avaient plus aucune ressource. Et en fait, il y avait aussi en même temps cette idée, voilà, qu'il y a des capacités préservées, que les malades ont quelque chose à nous apprendre. Alors je dis les malades parce que c'est le terme un peu réducteur. Et c'est vraiment des gens comme Pontalis, un psychanalyste, qui disait « Moi, ce que j'ai appris dans mon métier, je l'ai appris des malades. » Et c'est vrai que, pour ma part, ça a été une rencontre avec des personnes Alzheimer en 83 dans des longs séjours parisiens. Et après, ça a été l'expérience d'une relation individuelle où je me suis rendu compte que c'était extrêmement riche, qu'une patiente Alzheimer extrêmement dégradée, qui se mettait en colère, qui était dans un état catastrophique, en fait... Une fois qu'on l'approchait, qu'on lui parlait, que tout le monde, que toute l'équipe s'y mettait à la regarder comme vraiment un être humain, eh bien, la personne, elle a fini par s'apaiser au bout de 3-4 mois d'interview tous les jours, quotidien avec cette personne. Toute l'équipe a changé de regard sur elle et on a commencé à pouvoir avoir des relations harmonieuses avec elle. Puis j'ai revécu ça après dans un autre long séjour. J'ai pu constater l'effet du groupe. Donc, il y avait déjà, c'était à la mode dans les années 90, les groupes de parole. Et les malades d'Alzheimer pouvaient tout à fait s'y comporter de façon très vivante et ils se découvraient eux-mêmes, ils créaient des liens. En fait, créer du lien, c'est absolument magique. Et c'est pas parce qu'on est Alzheimer qu'on peut pas créer de lien. Ce qui fait qu'après, créer une unité Alzheimer, j'avais déjà des outils, j'avais grâce aux chercheurs de Caen été formé à la neuropsychologie qui donne les bases de la compréhension. et on a pu aussi motiver des soignants à venir. Ils se sont éclatés, ils ont développé eux-mêmes une vocation, et ce qui fait qu'avec une équipe motivée qui a accepté d'être formée, qui commençait à accepter aussi de connaître la neuropsychologie, et puis des gens qui avaient envie d'être en relation avec ces patients-là, on a pu créer une unité Alzheimer vivante, où justement il y avait une confiance assez forte des malades vis-à-vis de l'équipe soignante. Et on a beaucoup fait d'ateliers de mobilisation cognitive. En fait, la prise en charge de ces personnes-là, c'est amener le monde dans l'unité. C'est parler de la peinture aussi bien que de littérature, écouter de la musique aussi bien que chercher des mots, faire des rébus, etc. Et au fur et à mesure, les personnes, elles s'ouvrent. Et en fait, ils n'ont pas ce sentiment d'enfermement dans une structure, mais c'est bien le monde qui vient avec eux quand on sait leur proposer des activités qui font sens. Et c'était les soignants, c'est-à-dire ceux qui sont au lit du patient, ceux qui font les actes de la vie quotidienne, l'hygiène, etc., qui faisaient aussi les ateliers. Ce qui fait qu'il y avait une certaine proximité affective aussi et relationnelle.
Donc donc c'était 30 ans en arrière. C'est vrai qu'on commençait à avoir beaucoup, on avait déjà beaucoup d'informations techniques.
Oui.
Mais finalement, c'était l'époque, on avait un peu oublié de remettre l'humain, la personne au cœur de la problématique.
Un bémol pour les psychanalystes. Ou en psychiatrie, c'est pour ça aussi qu'on a pu se lancer, il y avait quand même vraiment des psychiatres qui disaient « mais ils ont une psyché jusque tard dans la maladie, il y a de l'esprit, il y a pas rien ». Alors que les neurologues à cette époque-là étaient peut-être un peu plus durs.
Mais il a fallu aussi avoir une équipe, vous le disiez, toute l'équipe de l'EHPAD suffisamment ouverte pour aussi se dire « finalement, nous on est un peu des experts ». Mais le premier expert de sa maladie et de ce qu'on pourra en faire ou ne pas en faire, c'est d'abord le patient. Et c'est lui qui a été remis donc dans l'EHPAD, un peu au cœur de ce projet. Alors, qui est né, c'est-à-dire qu'au fil du temps, vous avez découvert les patients et ça vous a permis de vous
confirmer
dire, là, il y a quelque chose à chercher.
Voilà. Oui, confirmer des intuitions. Et en fait, ça a aussi été des rencontres. Depuis, j'ai réinterviewé beaucoup de soignants et je continue de les interviewer. Mais ça a été quoi ton choix de travailler auprès d'Alzheimer? Maintenant, ça fait 25 ans. Et la majorité m'ont dit, mais il y a eu une relation. Et je leur ai fait trouver la personne qui avait été motrice. Et de fait, avec certaines de leurs résidents, ils avaient créé des liens. Et là, ça a été une vraie vocation.
Et alors, Odile parlait à l'instant de l'importance du travail technique, scientifique, avec le service de neuropsychologie à Caen, hein, donc. Comment s'est faite la rencontre, Hervé? Comment s'est fait le lien? C'est vrai que les deux sont liés. On a besoin des deux.
Hein, on chantait beaucoup grâce à une patiente qui est arrivée un jour de fin 93. Et en 94, j'en avais marre des vieux chants, le petit vin blanc, gna gna gna. Et puis, ils avaient une telle confiance, ces résidents, qu'on s'est dit, on va prendre des chants non connus. Donc, et juste, c'est sorti un livre, intéressant. Et j'aurais commencé à leur faire écouter des chants qu'ils ne connaissaient pas, mais j'avais remarqué aussi que les vieux chants qu'ils ne connaissaient pas, ils réussissaient à les réapprendre. Bon, mais là, on a vraiment écouté et répété, comme on le fait encore aujourd'hui. Mais maintenant, il y a eu d'autres choses qui sont faites. Et on a répété une chanson, et au bout de peut-être 15 fois quand même, il y a une des patientes qui prend le texte de la chanson, qui se met à la chanter, la extase. Et elle dit à sa fille qui était là, qui lui dit « Mais pourquoi tu chantes ça? Je ne connais pas cette chanson-là. » Puis elle lui dit, Marcel, la patiente en question, « Bon, enfin, je l'ai appris quand j'étais petite, tant pis pour toi si tu ne la connais pas. »
Hervé, je reviens vers vous. Comment s'est fait le lien, effectivement, à partir de ce moment-là, du moment où vous avez senti, vous, du côté de
l'EHPAD? Le lien, il est d'abord, effectivement, sur la neuropsychologie, c'est-à-dire cette discipline qui essaye de mieux comprendre les conséquences, en fait, sur le comportement des maladies du cerveau. Et il y avait des enseignements de neuropsychologie. Donc, c'est pas, en fin de compte, la formation et l'enseignement qu'on s'est d'abord rencontrés. Et en définitive, c'est Odile, c'est un clinicien un petit peu atypique aussi, faut le dire. Hein. Donc, sa curiosité l'a amené aussi à vouloir toujours rester à la pointe, en fin de compte, des connaissances dans le domaine de la recherche, ce que on trouve pas forcément tout à fait partout. Et moi, de mon côté, je suivais ma petite vie de chercheur. Je m'occupais donc de neuroimagerie de la mémoire. Je m'intéressais à la musique et comment, en fin de compte, on pouvait entendre la musique dans notre cerveau, mais c'était très fondamental. Et petit à petit, je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais est-ce que, effectivement, ce que l'on sait et ce que les neurosciences ont commencé à découvrir du cerveau du musicien, du cerveau de l'auditeur de musique. Est-ce que ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe quand on fait de la musicothérapie et est-ce que ça peut nous donner des leviers de compréhension par rapport à des interventions aussi d'art thérapie en général? Mais j'avais aucune idée de la manière, effectivement, de rendre ça concret sur une expérience de terrain. Et c'est là que Odile m'a rencontré par rapport à cette expérience complètement incongrue au départ pour nous, puisque malgré ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement on mettait de plus en plus l'accent sur, je dirais de manière positive, sur les capacités préservées des patients, mais jusqu'à la fin des années 90 et même encore aujourd'hui, on peut dire que la vision de cette pathologie est quand même une vision très déficitaire, avec l'idée que même si on fait des ateliers d'art-thérapie, même si on fait de très beaux ateliers où prennent du plaisir, on fait de l'occupationnel. Et grâce à ce qu'a fait Odile, eh bien, ça a remis complètement en question cette vision.
C'est-à-dire qu'on a une vision, effectivement, et le nom même, d'ailleurs, de, quand on utilise maladie neurodégénérative, on se dit, de toute façon, ça ne peut que dégénérer. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans l'acceptation qu'il peut y avoir, au contraire, un progrès ou un rebond, je ne sais pas.
Ça va continuer à dégénérer. La maladie fait son chemin, mais, et c'est ce que nous a enseigné un grand philosophe qui s'appelle Canguilhem, qui est des années 40, qui a vraiment fait des choses sur qu'est-ce que la normalité et comment on s'habitue à une maladie. Ce qu'il a montré, que c'est pas parce qu'on a une maladie incurable qu'on ne doit pas essayer de faire vivre à cette personne une autre vie, mais qui est adaptée à la maladie. Donc, en fait, nous, ce que maintenant toutes les structures font, enfin, ça a changé en 30 ans, c'est absolument fabuleux, c'est qu'on donne les moyens à ces personnes de vivre, d'avoir du plaisir, de chanter, de danser, d'être amoureux, d'avoir des relations, et puis ils ont des moments aussi où ils s'effondrent, mais la maladie, elle continue son chemin. Ce que je me dis, c'est que peut-être on ralentit, on accède un peu plus tard peut-être à la phase très sévère, grammatisation, etc. Je ne sais pas, peut-être.
Oui, alors là, peut-être le chercheur pourra répondre, mais c'est vrai que l'idée, c'est peut-être de dire, ça dégénère, mais peut-être le moins vite possible et le plus tard possible.
Ça, c'est un premier point. C'est sans doute que grâce à ces stimulations, à cet encadrement, à cette prise en charge globale, on peut avoir l'espoir, mais c'est très difficile de le démontrer scientifiquement, de le prouver. Mais je pense que sur le terrain, on en est tout à fait convaincu, on a l'espoir effectivement qu'on amène ces patients vers leur fin de vie avec la meilleure qualité possible. Mais par contre, ce qui est vraiment tout à fait nouveau dans la perception de cette maladie, c'est que la définition qu'on en donnait, et Odile le disait tout à l'heure, c'est que par rapport à la mémoire, on disait en fait c'est une maladie de la mémoire, de l'ensemble de la mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Le cerveau ne peut plus apprendre. Or, ce qui a été démontré avec cette expérience de terrain et qu'on a reprise après dans un contexte de recherche expérimentale, c'est de démontrer qu'au contraire, on s'était trompé. Ces patients, leur cerveau continue à pouvoir apprendre dans certaines conditions, mais eux-mêmes, ces patients, ne peuvent pas volontairement rendre compte de ces apprentissages.
Nous aussi, on va continuer d'apprendre avec vous sur Vivre FM dans un instant.
11h midi, recherche et partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois.
J'ai demandé à la Lune, mais cette fois-ci, ce n'était pas chanté par Indochine. Nos invités, Odile et Hervé, vont nous en dire plus sur ces personnes qui chantaient à l'instant. J'ai demandé à la Lune. Alors, qui veut commencer? Odile, peut-être? Hervé?
Juste pour dire, bon, ça, ce n'est pas un enregistrement d'hier. Hein, donc, il a déjà plus de 10 ans, cet enregistrement. Donc, quand la chanson était devenue populaire, les patients en institution qui ne la connaissaient pas, on avait décidé effectivement de leur faire apprendre. Vu de ce qu'a décrit Odile, la surprise, c'est qu'en définitive, il n'y a pas qu'un seul patient qui a réussi à apprendre la mélodie de cette chanson. C'est-à-dire que quand ils regardent le texte, ils lisent le texte et la mélodie leur revient, et ils sont capables de la chanter. On a fait apprendre plus d'une dizaine de chansons de tout type, donc populaires, plus ou moins connues, mais qui étaient au départ inconnues des patients. Et ça, moi, en tant que neuropsychologue, enfin, j'en suis resté baba parce que c'était complètement improbable et contre, en fin de compte, ce qu'on nous apprenait d'un point de vue théorique sur ce que devaient être ces patients d'un point de vue de la mémoire.
Alors, c'est vrai qu'on a des patientes, en plus, qui ne sont pas forcément toutes jeunes. C'est vrai que ce n'est pas forcément Indochine, de toute façon, n'est pas forcément dans leur bande-son habituelle. Mais est-ce que ça marche plus ou moins bien, du coup, selon certains types de morceaux de musique? Vous avez été jusque-là dans la recherche?
Oui, on a choisi les chants où il n'y a pas trop d'écart dans les quintes et les quintes, en fait, Hervé saurait dire. Des chansons pas trop plates, comme Carla Bruni, qui chante très plat, et là, ça ne leur plaisait pas du tout.
Vous avez choisi de la chanson, quoi.
Oui, quand même. Carla Bruni. Oui, franchement. Que ce soit très mélodieux, comme Indochine, ou comme Le Manège, l'autre chanson qu'on entend, puis plein d'autres, enfin, on en a appris beaucoup, beaucoup.
Finalement, vous avez choisi des chansons que vous aimez ou que vous pensez pouvaient être appréciées par les patients, parce que quel est le lien aussi entre ces chansons et la notion de plaisir, de bonheur, d'envie? Est-ce que ça joue aussi dans les capacités d'apprentissage,
j'imagine? C'est la première question qu'on leur pose, c'est-à-dire lors de la première séance, on leur dit « Est-ce que vous connaissez cette chanson ?» Déjà, on vérifie s'ils la connaissent. Donc, généralement, ils disent non. Peut y avoir des fausses reconnaissances, mais généralement, ils disent non. Non, jamais entendu. Ok. Est-ce que vous l'aimez? C'est la première question qu'on pose. Est-ce que vous l'aimez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Les paroles, on leur laisse les paroles sous les yeux. Et c'est très important parce que, au-delà de l'apprentissage, c'est un atelier, c'est-à-dire qu'on est là pour les faire s'exprimer, les faire vivre. Et faut pas négliger non plus, en fin de compte, la force des paroles dans ces histoires-là. C'est que même s'ils s'en souviennent pas des paroles, et c'est ça qui est complètement étonnant, c'est qu'ils mémorisent très bien les mélodies, mais alors les paroles, c'est impossible de les retenir par cœur pour eux. Mais les paroles ont une pertinence. Et certaines chansons, on a vu que c'était plus difficile parce que le texte les accrochait moins. Mais c'est le texte et pas forcément la mélodie qui était incriminée.
Puis les mots vulgaires, c'était rejeté. Puis les images trop fortes et qui ne leur parlaient pas, il faut du concret. Dire que, je sais pas, que les nuages ressemblent à un arbre qui pousse, c'était pas possible. Il fallait que ça soit un peu pratique, concret.
Voilà, mais en prenant en compte ces éléments qui restent finalement
assez facile
à assimiler, ça n'a été que du positif. Ça n'a été que de découvrir que finalement, quels que soient les patients, quelles que soient ces chansons, eh bien, il y avait c'était des capacités de mémorisation carrément retrouvées en quelque sorte, ou découvertes finalement.
Non, justement. C'est ça qui est nouveau. Alors, il faut bien préciser pour les auditeurs le contexte, c'est-à-dire que les patients qui étaient pris dans ces ateliers, et en particulier quand il était question effectivement d'en faire une recherche, c'était des patients très bien sélectionnés du point de vue de leur amnésie. C'est-à-dire que ce sont des patients très amnésiques, qui sont à un stade avancé de la maladie. Et donc, typiquement, vous leur faites faire un atelier. Si l'atelier est terminé depuis 10 minutes, vous revenez les voir et vous leur dites « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» Là, vous avez participé à un atelier chant. Vous dites « Ah non, moi, pas du tout. » Ils ont complètement oublié. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'aller faire le voyage mental qui leur permettrait de retrouver la source, en fin de compte, de l'information. Alors, sur cette base-là, comme ils ne sont pas capables de retrouver l'information d'eux-mêmes, c'est vraiment le sens de leur trouble de mémoire, on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'encodage, que ça se faisait, qu'il ne restait rien dans le cerveau, que ça s'évanouissait. Et grâce, en fait, à ce qu'on a appelé, nous, le sentiment de familiarité, c'est-à-dire l'émergence petit à petit d'un sentiment de connaissance, c'est-à-dire au départ, ils disent « Ah non, je ne connais pas cette chanson ». Et puis, 8 séances plus tard, « Ah ben oui, je la connais bien, parfaitement ». Et même après, quand ils ne la travaillent plus, au bout de 2 mois, on s'aperçoit que quand on leur représente le texte, ce sentiment de familiarité existe toujours.
Et d'ailleurs, on a, je crois, le deuxième petit extrait sonore qu'on peut écouter, qui reflète bien ce que vient de dire Hervé. On va l'écouter et on le commente avec vous après.
Oh, le manège! Ah ben si, ça je connais, ça. Oh là là, comment ça commence? Oh là là, je sais plus, le manège. Ah, un tour de manège, mais je n'arrive pas à trouver. Je sais ce que c'est.
C'est quoi?
Qui tourne en rond, un tour de magie pour voir si le voyage vaut le coup. J'ai vu ça. Hein. J'ai travaillé là-dessus.
Qu'est-ce que tu fais là-dessus?
Ben, je chantais ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
Oui, c'est une chanson.
C'est une chanson, oui, le manège, oui.
Mais exactement.
Il faut que je la relève, que je la revoie. Mm-hmm. Parce que, ben, tu vois, j'oublie aussi ces choses-là.
Je te dis les premières notes.
Ça?
Oui. ça fait
un tour de manège autour de nos vies, mais je voudrais le savoir comment on le...
Je te donne les deux premières notes.
Un tour... Bah non, ça marche pas.
Un tour de manège
autour de nos vies qui tournent en rond, un tour de magie pour voir si le voyage vaut le coup. Un tour de manège autour de nous.
Hé
hey. En entier.
Oui. Bon, bah, tu vois. Hein.
Ça fait longtemps que tu la chantes, celle-là ?
Ah bah, à la dernière fois, je ne me rappelle pas. Hein.
Voilà, je crois que l'extrait sonore reflète bien ce dont on vient de parler avec vous, Hervé et Odile. C'est-à-dire que la personne ne se rappelle pas finalement qu'elle a dans son cerveau quelque part voilà. Les chansons, les apprentissages,
c'est le
la mémoire.
Que l'on fait chez tous les patients, c'est-à-dire ce qu'ils nous disent, c'est « je sais que je connais ». Et alors, comme ils n'arrivent pas à relier avec le fait que c'est quelque chose éventuellement de récent ou plus ou moins ancien, donc pour eux, tout ce qu'ils connaissent est forcément quelque chose qu'ils ont connu il y a longtemps, qu'ils connaissent parfaitement. Et s'ils le connaissent parfaitement, c'est qu'ils ont dû l'apprendre il y a longtemps. Donc ça, c'est une réponse tout à fait typique. Donc dans cet extrait, on voit bien que la neuropsychologue Caroline Mauger, qui a participé aussi à ces ateliers, donc la patiente ne dit pas « ah ben oui, je l'ai chanté avec vous », elle ne se souvient pas de la situation. Pourtant, bon, elle connaît bien la chanson, il lui faut les deux indices, il faut démarrer. Hein. Donc, mais on a eu des patients, et ça c'était encore plus incroyable, qui spontanément, ils n'ont même pas eu besoin en fin de compte de cet indissage, ont pu retrouver de même la mélodie. Et ça nous a quand même scotché.
Et puis ça doit être, quand on est proche de ces personnes-là,
incroyable.
Voilà,
oui.
On leur redonne confiance en elles, là, dans l'expérience.
Oui, puis quand on leur pose des questions sur la salle, puisque c'était toujours dans la même salle à la fin, quoi. Après 10 ans de pratique, on a pu avoir une salle vraiment dédiée à ça au bout de 15 ans. Et quand on leur demandait « qu'est-ce que vous faites dans cette salle ?» Vous la connaissez. Et notre amande, elle disait « ben on vient ici, oui, c'est beau ici, c'est joli, on fait que de rigoler ici. Mais est-ce qu'on fait autre chose ?» Ben on rigole, c'est déjà pas mal, on est bien là. Mais aucune notion d'avoir appris un chant.
Après des années, pourtant, avoir été dans la salle.
Voilà.
Mais ce qui reste, c'est l'émotion, c'est-à-dire l'émotion positive, et elle demeure en eux, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment d'avoir vécu quelque chose d'agréable, de positif, et en particulier, on en parlait donc entre nous avant, eh bien, on voit bien qu'avec certains soignants, les patients vont construire des relations particulières, et ce qui leur reste dans leur tête, c'est qu'avec cette personne-là, je me sens bien, je fais des choses agréables. Et pourtant, je ne mémoriserai, je ne serai jamais capable de dire son prénom.
Voilà, les choses peuvent être encore un peu floues, mais le sentiment général de bien-être ou de confiance, lui, reste.
Il va aussi avec le même phénomène qui se passe. Alors, il y a eu des études, vous avez pu faire des études, Hervé a continué de travailler sur ce sujet, mais je voulais en parler parce que c'est tellement important, ce qui nous a permis aussi de pouvoir apprendre de nouveaux chants, enfin, ou se lancer un peu dans... C'était pas du tout expérimental, c'était du plaisir. C'était découvrir de nouvelles chansons, nous, les soignants, comme les résidents. Mais en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que nos visages étaient intégrés. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois de vie dans l'institution, quand ils nous croisaient, ils nous appelaient Pépé, Cocotte, etc., ils ne nous demandaient pas du tout qui on était, ni ce qu'on pouvait, quel était notre métier, parce que pour eux, on était des gens qui vivions avec eux. Je n'avais pas de métier avec eux. J'étais, moi, quelqu'un qui avait... Parfois, certains me disaient, t'as une jolie robe, etc.
C'est parti du décor, quoi.
Voilà, c'est ça. On est complètement dans le décor. Donc, la familiarisation au visage, elle était là. Et la familiarisation aux ateliers, dès qu'on se lève et qu'on a l'habitude de faire des ateliers, vous avez 7-8 personnes qui vous suivent et qui savent qu'il va se passer quelque chose, ils ne savent pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place.
Est-ce que, pour parler un peu technique, on va dire, vraiment de l'aspect recherche un instant, ça a vraiment progressé, c'est-à-dire qu'on a découvert, vous disiez tout à l'heure, on ne comprend pas encore vraiment tout, pourquoi, comment ça marche, mais ce qu'on a démontré et ce dont on est sûr, c'est que ça marche finalement.
Oui, alors la première étape, ça a été la constatation. Contre toute attente, il y a un apprentissage possible. Après, c'est comprendre, est-ce que c'est spécifique à la musique, au chant ? Donc ça a été la première étape, et puis de s'apercevoir que non, Odile vient de dire à l'instant, il y a une familiarisation au visage. Ça, on a pu la redémontrer aussi. C'est-à-dire que quand vous présentez, vous exposez à plusieurs reprises, plusieurs jours de suite, des visages tout à fait inconnus à des patients, au départ, vous leur demandez s'ils les connaissent, ils vous disent non. Le deuxième jour, vous représentez les visages, etc., mélangés à des nouveaux éventuellement. Et puis, ils finissent, les visages qui sont répétés tous les jours, ils finissent par vous dire « Ah oui, celui-là, je l'ai déjà vu ». Dans quel contexte? Pareil que pour la musique, je ne me souviens pas, je ne sais pas, oh, je dois le connaître depuis longtemps. Et on a fait ça avec des tableaux de peinture qu'ils ne connaissaient pas, on s'est aperçu que ça fonctionnait aussi très très bien. Par contre, la chose qui fonctionne le moins bien, et ça on peut le comprendre parce que c'est assez spécifique, c'est apprendre, avoir un sentiment de familiarité, par exemple pour un poème ou pour une petite histoire, c'est-à-dire simplement pour des phrases. Et ça, par contre, ça marche très mal. Donc, et ça correspond bien à ce qu'on observe au niveau de la pathologie généralement. Donc, tout ce qui est perceptif, qui est riche perceptivement et qui peut effectivement laisser une empreinte dans le cerveau d'un point de vue sensoriel, peut faire émerger un sentiment de familiarité. Alors maintenant, par où ça passe dans le cerveau? Est-ce que ça utilise les circuits de la mémoire habituels, alors qu'ils sont très détériorés? Ça, c'est la question à laquelle on essaie de répondre, et on vient de terminer une étude en neuroimagerie. On a fait passer ces patients à qui on a fait apprendre des nouvelles informations pour voir effectivement quels sont les circuits du cerveau qui permettent ces nouveaux apprentissages.
Vous écoutez Recherche et Partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Odile Le Tortue, gériatre, médecin coordonnateur, et Hervé Platel, chercheur et professeur de neuropsychologie, sont avec nous, toujours encore, pour un petit moment. On a encore des choses à vous dire. Avec Hervé, Hervé nous disait à l'instant l'apport scientifique que ces recherches amènent. Il y a un certain nombre de choses qu'on arrive à démontrer. Et puis, on a l'impression que vous avez terminé une phase intéressante avec notamment la musique. Vous allez continuer, puis continuer avec l'EHPAD en collaboration toujours avec
le
directeur.
Oui, les choses évoluent. Mais cette phase, donc cette première phase terminée, qui est la phase en fin de compte d'objectiver la réalité de ce phénomène d'apprentissage chez les patients, je pense que maintenant il faut que ça passe par une phase donc de valorisation, c'est-à-dire que il y a un transfert de ce que on a découvert et appris, et qu'il y a un transfert sur le terrain. Sur la manière dont on va prendre en charge ces patients. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, de changer ce regard et de dire non, on fait juste de l'occupationnel, non, ça c'est terminé. Avec ces patients, on peut partir d'un point A à un point B, c'est-à-dire on peut construire un projet de soins où on va effectivement aller ensemble vers quelque chose, vers un objectif, et pas penser qu'en fin de compte, on répète tout le temps la même chose et qu'on va tourner à vide comme ça perpétuellement. C'est pas vrai du tout, c'est déjà pas vrai du point de vue de la relation, et c'est pas vrai d'un point de vue de ce qu'on peut faire sur le plan de la mémoire. Donc ces études, donc maintenant on essaie de les valoriser, de les transférer, notre expérience, cette expérience donc entre la recherche de terrain et puis la recherche fondamentale, eh bien on a créé un site web et puis une association. Donc c'est AT Alzheimer, en fait AT pour AT le symbole donc de l'arrobas, hein, donc sur ce site, effectivement il y a deux choses, c'est d'essayer de diffuser des informations sur l'état de la recherche, sur l'intérêt des supports artistiques dans la prise en charge des patients, et ce que nous disent les études scientifiques sur comment ça marche, pourquoi ça marche, et puis de l'autre côté, la philosophie du soin, et ça c'est, je dirais, le champ d'Odile, de convaincre effectivement les soignants, les institutions, on va pas négliger les institutions, de changer leur philosophie, la manière d'envisager le soin de terrain.
Et comment la philo peut nous aider à comprendre ce qu'on fait? Et comment la philo peut nous aider à sortir de certains dilemmes moraux? Alors, en France, il y a un grand, grand courant. Il y a un comité d'éthique à Paris, à la PHP. Mais il y a aussi beaucoup d'écrivains. Et en fait, par exemple, vous voyez, sur le sentiment de familiarité, on a du mal à expliquer ce sentiment de familiarité. Parce que le mot français, familiarité, c'est aussi, on est familier, on se tape sur l'épaule. C'est vraiment pas ça. C'est pas vulgaire du tout comme concept. et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'élargir ce sentiment de familiarité et l'associer souvent à quelque chose qui est un sentiment d'amitié entre soignant et soigné, ça a été proposé par une Céline Lefebvre qui travaille à l'EHSS là, à Paris, et qui écrit des articles merveilleux, et elle montre que les affinités électives entre les soignants, c'est pas forcément, il y a pas forcément besoin d'avoir des distances affectives épouvantables avec les résidents, et on a le droit d'avoir des affinités électives. Parce que elle va nous montrer dans cet article très philosophique que la relation d'amitié peut être une relation qui peut être vécue entre le médecin et le malade. Et moi, je l'extrapole, alors peut-être exagérément, mais je pense qu'on va retravailler ça, à la relation soignant-soigné en EHPAD. Et toutes les soignantes que j'ai pu interroger, elles reconnaissent que parler de la relation de soins en termes de sentiment de familiarité qui se crée, c'est bien. Mais quand je leur ai proposé le terme relation d'amitié, elles ont été épatées et elles ont pu, elles, penser certaines relations. Et j'ai assisté à l'éclosion d'une superbe relation où la patiente disait à Véronique, l'aide-soignante, quand on parlait de cette relation d'amitié, mais vous savez, vous, ça n'avait pas son prénom bien sûr, je crois que je vous ai choisi. Et la soignante, tout émue, s'est rendue compte qu'aussi, en fait, c'était l'une des personnes avec qui elle se sentait le mieux dans les patientes qu'elle pouvait aider. Et elle a reconnu que quand il y a cette relation d'amitié, cette proximité affective qui est très digne, hein, qui n'est pas du tout une fusion, qui n'est pas un alliage, qui est une alliance, plutôt comme l'ont proposé des philosophes, eh bien, ça aide aux soins. Et c'est vrai que ça se fait dans un contexte tout à fait différent.
Et là, on parle d'un contexte très spécifique, mais c'est valable aussi dans beaucoup d'autres domaines. On ose aujourd'hui parler d'amour dans le travail social, par exemple, alors que c'est très très nouveau. Il y a encore peu de temps, c'était complètement tabou.
Mais faut pas le galvauder. Le
galvauder,
le mélanger d'un point de vue scientifique. Je pense que, en l'occurrence, les choses ont beaucoup évolué sur effectivement ce que l'on dit de l'affect, des émotions, etc. Souvent, on parle en fin de compte de la cognition, des fonctions cognitives, pour faire un synonyme avec fonction intellectuelle, mais en oubliant qu'aujourd'hui, en recherche, en neuropsychologie et même en philosophie, quand on dit fonction cognitive, on inclut les émotions et les affects. Les fonctions cognitives ne sont pas détachées des affects et de l'émotion. Il ne faut pas oublier ça. Et ce qui est regrettable en France, on peut le dire, c'est que beaucoup de métiers du soin, les aides-soignants, les infirmiers, etc., sont détachés, en fin de compte, sont pas engagés aussi dans des perspectives de recherche. Et donc, de fait, sont éloignés de l'actualité de la recherche. Et c'est dommage parce que je pense que c'est la première marche, c'est la première étape pour être capable de construire une relation avec des patients où on se rend compte, on prend la bonne distance, on se rend compte de ce qu'on fait, c'est-à-dire on n'est pas en train de recréer une fusion avec le patient, dont on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas en train de créer une relation filiale ou de fille à mère ou à parent. Ouais, c'est pas ça. On est bien dans son rôle professionnel, mais on a intégré le fait que la relation, l'émotion, ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition sociale aussi, s'intègre effectivement.
C'est pas incompatible. Quoi.
C'est pas incompatible, ouais. S'intègre complètement dans les actes techniques, dans la manière de prendre soin des patients.
Alors, prochaine étape, après la musique, on a vu donc la musique, alors, tout l'apport
là, tout
de la
suite,
musique.
C'est la philosophie du soin.
La philosophie, oui. Toujours.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs français, des philosophes, des vrais. Même par exemple.
Y en aurait-il des faux?
Oui,
on ne donnera pas de nom.
Bon. D'accord. Donc par exemple, Michel Malherbe qui a écrit un livre sur Alzheimer, mort et renaissance. Alors je ne l'ai pas tout lu, alors je ne vais pas le résumer. Mais moi, ce qui me passionne, c'est qu'il est à la fois philosophe et à la fois conjoint et qu'il peut dire des choses que je crois que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Et donc, je pense que ça va faire bouger un peu les choses. Et puis, il y a beaucoup d'autres philosophes qui nous éclairent, des Frédéric Worms qui parle vraiment du soin relationnel. Enfin, reposer le fait que le soin, ça ne peut pas être en dehors de la relation, que c'est pas des objets qu'on traite, que c'est pas, et que même un soin technique, comme faire une injection, etc., reste un soin relationnel.
Et concrètement, du coup, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, enfin, en tout cas, les personnes que vous aidez, comment ça se concrétise, cette envie de creuser un peu l'aspect philosophique dans le soin? Voilà, concrètement, vous faites quoi?
Il y a de plus en plus donc, de congrès, d'abord autour de l'éthique, où les soignants, on peut leur proposer de venir. Et puis, de plus en plus en EHPAD, il se crée des petits comités d'éthique, on va réfléchir. Et moi, j'ai bien envie de leur poser plus de questions. je travaille dans un nouvel établissement, là je les connais encore peu, les soignantes, mais quand je vois Véronique, celle à qui j'ai demandé « mais quelle est ta relation ?» et puis qui se rend compte qu'elle a une relation très forte et qu'elle ne l'avait pas perçue, elle m'a même dit « toi, tu es toujours en train d'élucubrer des trucs, d'abstrait, c'est abstrait. » Puis en fait, elle a été super heureuse, elle n'avait pas pris conscience de la relation qu'elle avait.
Quels sont les freins qu'il y a encore que vous rencontrez auprès des professionnels notamment du soin justement et qui ont du mal peut-être à ouvrir un petit peu le...
Ben, faut faire attention parce que beaucoup n'ont pas l'habitude de poser des questions sur leur propre travail et ça les déstabilise, ça peut être très déstabilisant, ça peut remettre en question et je pense que chez des gens fragiles, des soignants qui n'ont peut-être pas l'habitude de se poser des questions. Est-ce qu'il y a un dilemme moral? Est-ce comment je dois répondre à ça? Est-ce que, par exemple, est-ce que mon geste auprès d'un résident que je viens changer 5 fois par jour, est-ce qu'il n'est pas un peu violent ce geste? En même temps, il faut le faire pour des raisons d'hygiène. Mais au moins se poser la question, parce que je pense qu'il y a des moments où elles se sentent faire un geste qui est déstabilisant pour le patient et en même temps, on est bien obligé de le faire. Il y a une façon de le faire dans un certain contexte, mais bon, ce que je veux juste rappeler, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en EHPAD, on peut avoir des attitudes un peu difficiles relations avec les personnes, parce qu'on leur fait des soins quand même qui sont très intimes, mais il ne faut pas oublier que la principale violence, elle est due à la maladie. Être malade Alzheimer, c'est subir une violence inimaginable. De ne plus avoir sa mémoire, ses réactions, son langage, de trouver ses mots, enfin, c'est terrible. Et donc, et ce qui est le paradoxe, c'est que leur proposer de venir en EHPAD quand la famille est épuisée, quand il n'y a plus assez de réponses au sein de la famille, c'est en fait leur redonner une chance, parce qu'évidemment, on est plus armé. Mais ça, il faut convaincre.
Redonner une chance et puis remettre effectivement là aussi au cœur de cette relation et pour le patient, la première personne concernée, du plaisir. Du coup, tout ça, voilà. Qu'on parle musique, qu'on parle philosophie, tout va amener à améliorer la qualité de vie de la personne concernée.
Parce que les philosophes nous donnent des mots, interrogent des concepts et donc on peut aller plus loin dans la réflexion. Mais ça, c'est valable aussi pour les soins à domicile qui demanderaient encore plus de formation, puisque là, les soins à domicile s'occupent souvent de personnes moins malades, qui sont peut-être encore plus demandeuses d'attention et de compréhension. Et c'est là que la neuropsycho aussi doit jouer son rôle, c'est que sans neuropsychologie, on ne comprend pas les symptômes des patients. Alors qu'avec un outil comme la neuropsycho, c'est la base, il ne faut pas oublier. Là, maintenant, moi, je m'intéresse à la philo, mais la base, elle est acquise, par contre, par les soignants. En Normandie, tout le monde a été formé à la neuropsychologie.
Il va falloir continuer cette collaboration hein, du coup, entre la neuropsychologie, les chercheurs, la recherche fondamentale d'un côté, et puis la pratique de terrain et l'expertise des proches. On renvoie les gens, vous disiez tout à l'heure Hervé, vers le site. Le site c'est at-alzheimer.fr. Et toutes les coordonnées qui sont bien sûr sur le site de Vivre FM, on y retrouve finalement tout ce dont on vient de parler, cette relation entre l'art, le soin et le mieux soigner, le care, comme on dit en anglais, hein, d'aller vers début. Plus de...
Voilà, on démarre doucement. Voilà. Pour faire partager effectivement ces réflexions qui vont de la recherche fondamentale à la recherche de terrain. Je pense que les cliniciens ne se rendent pas compte à quel point ce sont aussi des chercheurs, mais qu'ils s'ignorent en fait, ils s'ignorent parce qu'ils ne pensent pas avoir de méthodologie pour l'être. Alors on peut leur apprendre. Et donc tout passe par la connaissance et la culture pour arriver à avancer. Je pense qu'il faut vraiment revenir à ces fondamentaux-là.
Et puis on donne beaucoup de livres à lire.
Et puis les patients qui sont aussi des experts souvent et qui font avancer et progresser tout le monde. Merci à tous les deux, Hervé Platel, Odile Le Tortue, d'avoir été avec nous sur Vivre FM. Et puis bon week-end à tous à l'écoute de Vivre FM.
Vivre FM, podcast.